L'humanité chaque jour et l'humanité dimanche chaque semaine à partir de 16 euros par mois.
Demandez la lumière pour la fête de l'humanité, pour le succès de notre fête.
C'est une belle fête à la fête des ouvriers.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter qui a posé ses micros cette semaine à la fête de l'humanité pour un tour de table sur la rentrée sociale avec un programme chargé en direct, en public et en musique, bref, du son et du fond.
Et du son, il y en a déjà, du fond, on va bien voir, avec nos nombreux invités. Alors pour comprendre à quelle sauce vous risquez d'être mangé et vous aiguiser les méninges pour mieux y résister, venez nous rejoindre au studio de Radio France. Comme un bruit qui court et comme toujours réalisé par ce fainéant de Jérôme Chélius, assisté de la très cynique Lucille Valérie, et avec à la technique aujourd'hui que des extrémistes, Pascal Bresse, Adrien Gazin, Laurent César et Alex James.
Et avec tous ceux qui se mobilisent pour sauver les emplois aidés, même si c'est pas la panacée, les enseignants du 9-3 qui se mobilisent pour que l'égalité des chances devienne une réalité, le personnel de la santé publique sous tension et même quelques petits patrons dubitatifs quant à la loi travail XXL. Un aperçu du mouvement social de cette rentrée comme l'entonnait la fanfare invisible pendant la manif mardi dernier avec l'éclairage d'Alain Deneau qui vient de publier « Les politiques de l'extrême-centre et le totalitarisme des multinationales ». Aussi pour être internationaliste, un hommage au Che assassiné il y a 50 ans, mais toujours presente, et un tour dans le Maghreb avec les mouvements sociaux qui secouent le Rif marocain. Et avec vous aussi qui êtes venus à la fête de l'Huma aujourd'hui, alors un petit mot pour Macron, vous êtes des fainéants ou pas?
Je ne céderai rien.
Ah, aujourd'hui, on est là, le 21, on cédera.
Macron, t'es foutu.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux?
Alors pourquoi vous parlez de la rentrée sociale? À vrai dire, nous autres, nous sommes que des reporters, plutôt enclins à cavaler avec nos micros pour attraper le son. Alors nous nous sommes tournés vers de vrais penseurs. Et il en est un avec une célèbre écharpe rouge qui nous a donné la direction à suivre. Et puisqu'il n'est probablement pas là aujourd'hui dans les allées de la fête de l'Huma, je vous propose d'écouter le grand Christophe Barbier sur BFM TV.
Il y a un risque de troisième tour social, comme on dit.
Pas un risque, une chance. C'est une chance de troisième tour social pour un président comme Macron. C'est une épreuve du feu indispensable. Ça ne se fera pas sans barricade, ça ne se fera pas sans dégâts. Mais il faudra à un moment donné casser complètement l'obstruction syndicale.
Voilà, quand les éditos appelle à un troisième tour social pour casser la contestation, tout en cassant le droit du travail.
Un petit air de Margaret Thatcher au temps des grandes grèves des mineurs,
en
peut-être.
En tout cas, fainéants et cyniques et extrêmes n'ont qu'à bien se tenir. Après le tour de chauffe de grève du 12 septembre, de nombreuses journées d'action sont déjà annoncées dans la rue.
Comme le 21, ouais. La veille du Conseil des ministres.
Le 23, avec une marche contre le coup d'État social.
Et là, il ne s'agit encore que d'un début, puisque l'assurance chômage, tout comme les régimes de retraite, doivent également passer sur le grill. Nous entrons donc dans une longue séquence de conflictualité sociale. C'est ce que dit Denis Sifert dans Politique. Va donc pour la stratégie du choc.
Ouais, la stratégie du choc, vous le savez, c'est une vieille recette universelle. Quand le club peuple réclame des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, le pouvoir répond à coups de lacrymo, de matraques, d'arrestations. Rien de tel pour calmer les esprits vindicatifs ou au contraire les échauffer et faire basculer le mouvement dans la violence. Dans les deux cas, la stratégie est payante, sauf quand le peuple tient bon et continue la lutte pacifiquement. Et c'est ce qui se passe précisément en ce moment au Maroc, dans la région du Rif, où depuis de nombreux mois déjà, le mouvement fait trembler le pouvoir. On vous en parlera tout à l'heure en troisième partie d'émission. Une aspiration à une vie meilleure partagée dans le monde entier par tous ceux d'en bas, comme en Amérique latine, quand la révolution cubaine faisait référence.
Como establece la segunda declaración de la Habana,
comme le dit la seconde déclaration de la Havane, aucun peuple d'Amérique latine n'est faible parce qu'il appartient à une famille de 200 millions de frères qui souffrent les mêmes misères, qui ressentent les mêmes injustices, qui ont le même ennemi, qui rêvent tous d'un même meilleur destin et comptent sur la solidarité de tous les hommes et femmes honnêtes du monde. On se croirait à la fête de l'Huma, quoi. Mais c'était en 64 devant l'Assemblée générale de l'ONU, c'était le Che Et on est à la fête de l'UMA, donc en direct avec Jean Ortiz, avec Serge Pey, poète, et avec El Comunel, le musicien, pour rendre hommage au Che, un petit hommage, un grand hommage même, parce que il a été assassiné il y a 50 ans maintenant en Bolivie.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit.
Le soleil est noir. Un homme marche au-delà du peu. Il porte un béret. Sur son front, une étoile arrachée à la toupie de la nuit. Il se retourne. Il regarde. Il halète. Les moustiques mangent ses cheveux. Une ombre trébuche ou une lumière. L'homme est tombé. Il hisse une porte sur son dos. Une pluie de balles ricoche sur le silence qui se cache. Il a un soulier défait. Son pantalon est déchiré. Il porte la montagne sur son dos. L'air se roule dans les papillons. C'est le 8 octobre. Le Rio Guapai boit le sang qui coule de la jambe de l'homme. Les gorges ont soif. Des soldats maintenant entourent l'homme. On le traîne jusqu'au village. On lui attache les poignets dans une petite école. Il est assis sur le sol. Il a mangé des pierres. Il a mangé des fleurs. Les arbres marchent à quatre pattes. Devant lui, un tableau noir et une craie noire. Une seule phrase écrite. Quelques mots se détachent dans la poussière. La lumière a changé la craie de sa couleur. Maintenant, elle est blanche, comme du sang blanc. La maîtresse d'école entre, il la salue, elle lui répond. L'homme parle. « Le falta el acento !» Il manque un accent, dit-il, en souriant. La jeune fille fait un trait avec la craie. Elle ajoute un accent aigu sur le « e ».« Yo sé leer !»« Je sais lire !» L'homme est heureux, vaincu, mais vainqueur. Peu de temps après, on oblige le soldat à exécuter l'homme. Le soldat hésite. L'homme lui dit de tirer en le regardant dans les yeux. Une rafale de pistolets mitrailleurs déchire la page de papier. Une fleur tombe. La lumière écarte ses doigts. La lumière se met à rire. En pensant à la phrase sur le tableau, le soldat dit que l'homme lui a dit avant de mourir « Soyez serein et visez bien. Vous allez tuer qu'un homme. »
Merci Serge, Serge Pey et El Comunero qui étaient en direct à la fête de l'UMA. Donc c'est un texte de ce livre, Vive le Che, hein, qui est en ouverture du livre de Jean Ortiz. Jean, merci d'être venu aussi nous retrouver ici à la fête de l'UMA, c'est un plaisir de t'accueillir. Serge, tu es universitaire, tu viens de Pau hein, pour venir nous retrouver ici aujourd'hui et tu viens nous parler du Che. Jean, ouais. Tu viens nous parler du Che, tu as publié ce bouquin « Vive le Che ». Qu'est-ce que représente le Che pour toi ?
Écoute, pour moi, plus on le dénigre, plus son étoile brille. Et à ce sujet, je voudrais dire que M. Geoffrin, comparant le Che à un djihadiste, s'est couvert de ridicule pour être respectueux. Donc, pour moi, le Che, aujourd'hui, il est l'antithèse absolue de l'ère du temps. Il est l'antipolitique politicienne. Il est la politique au même propre. Voilà. Il est la recherche d'un modèle alternatif au soviétisme. Galeano, le grand écrivain Galeano, dit « Il y a des morts qui ont l'habitude, la dangereuse habitude de renaître. » Eh bien, voilà pourquoi ils en ont peur, parce qu'ils renaissent. Et nous avons besoin, nous, de récupérer cette perspective d'émancipation. Il faut retrouver les chemins de l'émancipation à travers le Che et à travers d'autres. Dans ces temps de travestisme politique, le Che incarne la rupture totale avec le vieux monde. Donc, nous avons besoin de mythes pour reconstruire la gauche, cette gauche qui est en miettes aujourd'hui, pour reconstruire une gauche de gauche, une gauche de lutte de classe, de transformation sociale. Nous avons besoin d'un horizon d'utopie. René Char disait, Serge, l'utopie, c'est l'impossible. Elle ne nous permet pas de l'atteindre, mais elle sert de lanterne. Nous avons besoin d'utopie, nous avons besoin de remettre l'humain au centre, nous avons besoin de conscience, nous avons besoin d'engagement, nous avons besoin d'éthique, de l'éthique. Le Che disait, la politique c'est du concentré d'éthique. Aujourd'hui, si on fait le bilan, qui est éthique en politique de nos dirigeants, vous avez la moitié qui sera en prison. Voilà. Donc réconcilier l'éthique et la politique. Oui, c'est possible, nous dit le Che. Oui, le romantisme révolutionnaire, l'idéalisme. Oui, un socialisme de la liberté, de la démocratie, de la socialisation. Oui, c'est possible. Si, c'est puede. Et voilà pourquoi ils le haïssent tant tous. Et Che nous dit, et je voudrais conclure là-dessus, que plus les temps sont difficiles, et ils sont difficiles aujourd'hui, lorsque tout paraît perdu, il ne faut jamais abandonner. Voilà ce que nous dit le Che. Donc, chers amis et camarades qui êtes là par centaines, partons ensemble avec le Che, avec d'autres, à la reconquête de nos idéaux, de notre utopie.
Merci Jean Merci d'être gentil. Venu nous retrouver ici. Alors ton bouquin, tu vas venir le présenter tout à l'heure à la fête de Lima, hein, au Salon du Livre.
Et tu Il n'y feras... en a plus aucun sur la place de Paris.
Ouais, c'est en rupture de stock, heureusement.
Vive le Che aux éditions Arcane 17.
Arcane 17. Merci Jean d'être venu nous voir.
Merci.
Merci Serge. Et merci El Comunello qui va nous chanter une petite chanson.
Bebito Jara, une chanson qui s'appelle Samba del Che. Explotan al campesino, al obrero y al minero, cuánto dolor su destino, veo mandante dolor. Bolívar leyó el camino y Guevara lo siguió, liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. San Ernesto de la Higuera, le llaman los
los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
Thomas El Comunero, à Serge Pay et à Jean Ortiz, donc, qui sont venus présenter le livre Vive le Che. Et c'était un texte de Serge Pay tout à l'heure qui est en préface de ce livre. Merci à tous les trois. À très bientôt. On continue donc le plateau sur cette riposte sociale qui s'organise aujourd'hui à la fête de l'UMA, Give.
Oui, une rentrée sociale qui s'annonce mouvementée, on nous l'a prédit. Et pour prendre un peu de champ par rapport à ce qui nous arrive, aux mesures et comme au plan de com', nous avons invité Alain Deneau. Bonjour Alain Deneau.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, Paris 8, Collège international de philosophie. Certains de vos livres récents s'intitulent La médiocratie, qui raconte comment notre démocratie est un régime où l'on considère comme incontournable le calier des charges des lois du marché, mais aussi la gouvernance qui souligne combien le politique s'efface devant la gestion. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais il y a quelques semaines de ça, on est allé à la fête du MEDEF comme un bruit qui court, et nous voici donc à la fête de l'UMA, où beaucoup de fainéants, j'imagine, étaient présents aux premières grandes manifestations qui avaient lieu cette semaine contre la réforme du travail. Et à ces manifestations, nous y étions, nous avons rencontré des patrons, mais qui n'étaient pas vraiment MEDEF. Je vous propose d'écouter.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Et ouais, la question est à l'heure du jour.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Je vois que vous êtes peut-être gréviste, mais vous êtes très réactif, parce que vous avez tous les deux des t-shirts.
T-shirt, c'est « Je suis rien, qu'un abruti, d'extrémiste, fainéant, cynique ».
C'est ça, c'est il y a moins d'une semaine qu'il a dit « fainéant ».
Une semaine, oui, moins d'une semaine.
Une semaine, le t-shirt est déjà là, les slogans sont là, il a servi clé en main les appels à la mobilisation, j'ai l'impression.
Et finalement, avec nos t-shirts, on est en marche.
C'est vrai qu'il nous fait marcher.
Oui, on vous l'a demandé ce t-shirt, j'imagine, dans la manif.
Oui, oui, il a eu du succès, oui. Il faut croire que...
Voilà, c'est peut-être le début d'une PME, pour vous.
Mais ouais, 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 d'ailleurs...
Et après, vous serez en train de manifester parce que vous avez trop de charges.
Absolument.
Mais tu vois, perso, je suis chef d'entreprise. J'ai jamais rien demandé de ce type-là au niveau de la modification des contrats de travail.
Quel genre d'entreprise?
Une TPE. Ouais. Une TPE en informatique, on développe des logiciels.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces ordonnances, vous, en tant que patron?
Je vais pouvoir augmenter mes profits, inutilement.
Tu pourrais me virer aussi, tu pourras me virer, ça.
Oui, je pourrais te virer, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Plus facilement, parce que c'est votre salarié en plus.
Oui, c'est mon salarié, et maintenant j'ai une lettre type pour le virer très facilement. C'est-à-dire que ça met dans une situation perverse, finalement, où j'ai tout pouvoir, où le salarié se retrouve en défaut, et finalement...
Voilà, c'est ça, vous n'êtes même plus obligé de remplir le formulaire, ça. Oui. La lettre type de licenciement économique sera fournie.
Oui, ça me permet de le dégager tout simplement, très facilement.
Moi, excusez-moi, je vous coupe deux secondes, mais moi j'étais à l'université d'été du MEDEF, où les patrons m'ont expliqué qu'ils avaient peur d'employer à cause de toutes ces contraintes et du coût du travail.
Parce que c'est notre projet !
Aujourd'hui, il faut arrêter de nous raconter. Si, c'est parce qu'on ne veut pas embaucher les syndicats et quelques ayatollahs qui se nourrissent d'un discours populiste. Et nous sommes des patrons de PME. La lourdeur du code du travail, la lourdeur des procédures administratives, ça nous le subissons tous. On espère qu'il tiendra ses promesses. Voilà.
Confiance et croissance. L'avenir, c'est la France.
Et le MEDEF ne représente pas les gens qui travaillent. Ça représente uniquement les gens qui profitent dans ce pays. Donc à 40, les grosses boîtes. Si l'objectif, c'est de pouvoir avoir de la flexibilité sur l'emploi, tout est déjà prévu. La question que je me pose, c'est à quoi sert cette réforme? À qui sert-elle? En tout cas, pas nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le carnet commande, c'est d'avoir de l'activité. Alors, ce sont les grandes entreprises qui vont pouvoir faire maintenant des licenciements de masse sans plan social. Donc c'est révoltant à force, parce que, je ne sais pas...
On a le même projet!
Peut-être.
En même temps, mon ami est en train de développer une pensée complexe.
Ça, c'est...
Je ne suis pas sûr que les auditeurs de France Inter soient capables de supporter ça. Ils ont déjà Meurice pour les faire chier. Donc n'en rajoute pas, s'il te plaît.
Je vais aller les voir après, dans Jupiter.
Profitez-en. Et la liberté, vous savez quoi? C'est une valeur de gauche. Ni droite ni gauche, sans antagonisme, la politique se réclamant du juste pragmatisme et du réalisme, voilà ce qu'on entend depuis l'élection de notre président, et c'est ce que vous, Alain Deneau, décrivez comme le triomphe des politiques de l'extrême-centre.
Mais en fait, l'extrême-centre est une façon de présenter un programme extrême sous le jour du centrisme. Et en fait, il est extrême dans le sens où les politiques qui sont en cause sont iniques, en ce qui concerne les enjeux sociaux, destructeur en ce qui concerne l'écologie et très certainement toujours impérialiste en ce qui concerne la géopolitique. En fait, en gros, quel est le programme qui est dicté par une oligarchie qui est constituée de la haute finance, de la grande industrie et très certainement des exécutifs politiques qui travaillent de pair. On le voit par le phénomène des portes tournantes. On n'a pas spéculé beaucoup, là. Bon,
on passe d'un emploi privé à un emploi public et inversement.
Continuellement. Moi, je l'ai étudié sur Total. Il y a continuellement des gens de Total qui travaillent dans l'appareil d'État et des gens de l'appareil d'État qui travaillent chez Total, quoi. Quel est le programme? C'est plus de dividendes pour les actionnaires, plus de bénéfices pour les multinationales, plus d'accès ou toujours autant d'accès aux paradis fiscaux, moins de droits pour les travailleurs, moins de fonds pour les services publics. Ensuite, tout est affaire d'emballage. Vous aurez Tsipras, vous aurez Trump, vous aurez Macron qui auront une façon ou une autre, selon les contextes culturels, sociopolitiques dans lesquels ils sont, d'emballer la chose. Ici, évidemment, les mots fétiches qu'on entend sont ceux de pragmatisme, modernité, raison, vérité, sérieux. Et en cela, l'extrême-centre a quelque chose d'extrémiste, voilà, au sens moral aussi, au sens où il s'agit de se montrer intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et au fond, l'extrême-centre n'est pas une façon de situer le curseur sur l'axe gauche-droite, mais de l'abolir. L'abolir en disant, au fond, il n'y a qu'une politique.
Il n'y a plus d'antagonisme.
Non, il n'y a qu'une politique. C'est la nôtre. C'est celle-là. Parce qu'elle est, en quelque sorte, voulue par la nature même des choses.
Ah, ce sont les aléas de la technique des liaisons. Donc nous retrouvons tout de suite Antoine Chaud et Guy Vanctil ainsi que Charlotte Perry.
Vous, le philosophe, plutôt que parler de Spinoza, vous nous racontez les bilans d'activité de Total, mais c'est aussi le poids plus généralement des multinationales sur l'avenir des politiques qui ne deviennent que des exécutants.
Mais je me suis intéressé au fait que les multinationales ne sont plus seulement des entreprises, ce sont des pouvoirs. Il faut les aborder ainsi. Ce sont des pouvoirs qui exercent une autorité d'un genre nouveau, qui n'ont d'intérêt que les leurs et qui se sont affranchis à la manière de Frankenstein des États qui les ont rendus possible dans l'histoire. Et aujourd'hui, vous avez ces réseaux de structures que sont les groupes qui existent hors de toute structure législative nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on aborde la question d'une multinationale, il faut tout de suite la penser sur un mode pluriel, considérer qu'elle est réfractée dans un très grand nombre de pays, d'où qu'on l'appelle une multinationale, dans des législations qui, même si on le voulait, ne sont pas capables de voter des lois, des règlements, des mesures qui sont de la même portée que celle de la multinationale. C'est-à-dire que la multinationale évolue sur une échelle qui est hors de portée des différentes législations, je trouve, ces filiales. Et on a développé ces pouvoirs qui, aujourd'hui, signent des accords, comme celui de la COP21, sont reçus comme par Vladimir Poutine, par exemple, à la manière de chef d'État, peuvent poursuivre devant des mécanismes de règlement différents des États pour régler des affaires contractuelles, comme si elles étaient hors de toute conjoncture. On l'a vu en Argentine par rapport à la crise économique grave de 1990, où en poursuivant le gouvernement, on faisait comme si les entreprises, les grandes entreprises, ne devaient pas subir les conséquences de la crise, mais seulement tous les autres acteurs. Et le reste, vous avez ensuite des groupes qui vont financer des associations culturelles, des musées, des championnats de football, et pour toujours se rendre en quelque sorte indispensable à différents titres.
Et ce qui entérine le TINA de Margaret Thatcher, There is no alternative. Merci beaucoup Alain Deneau, restez avec nous, on va continuer ce débat après. Mais pour l'instant, TINA, There is no alternative, ça nous a fait penser à une chanson d'un invité aujourd'hui sur le plateau en direct de Comme un bruit qui court, Ali.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, News Extrême. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance, le chômage et son cortège de misère. Fini la petite auto, fini les vacances au crottoir, fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ?
Oui,
allez, on y va, on y va,
parce que c'est notre projet !
Caresser les platines et embrasser le microphone. Une mélodie et quelques mots pour que l'alchimie prenne forme. Attention, âme sensible, l'écoute risque d'être un peu violente quand ma plume touche le sillon, ça éclabousse de rimes sanglantes. Si l'impact de mes mots est brutal, c'est que ce monde l'est aussi. À force de vivre comme un animal, l'homme devient bien pire que lui. Y'a pas de haine dans mes propos, juste de l'amour que l'on presse. Vu que l'homme est un loup pour l'homme, il devient la pire des espèces. Vu que l'argent c'est le nerf de la guerre, alors on tue à n'importe quel prix. Les yeux fermés, sans se soucier de ça. Voir qui finira au tapis. On est tous des codes-barres avec une date de péremption. Ce sentiment de liberté n'est juste en fait qu'une illusion. Est-ce toi qui décides pour toi ou l'argent qui guide tes pas? La crainte d'une vie de tocard nous fait tous vivre comme des rats. Ils nous tiennent par la peur, la tête sous l'eau à la fin du mois. Et de temps en temps une bouffée d'air pour voir qu'il y a toujours pire que soi. Esclaves de leur système, enchaînés au cerveau. Les coups de fouet ne sont plus les mêmes, mais le bourreau a les mêmes idéaux. Ça défile dans les rues de Paris au nom de la liberté d'expression. Et ça opprime toute une jeunesse qui défile place de la nation. Au royaume des aveugles, bandés bien plus que le roi. Ils voient pour toi, ils pensent pour toi et le troupeau ne suit pas à pas. Tu ne savais pas, t'avais pas vu, c'est sûrement pas ta faute à toi. Non, ils peuvent dormir tranquille, rien de tout ça nous réveillera. Pourtant l'heure a déjà sonné, déjà depuis bien plus longtemps. C'est étonnant de voir comment rien ne nous paraît affligeant. Y'a de la merde dans nos assiettes, ça végète devant nos télés. Ça révolte en charentaise, le cul posé sur le canapé. Ça descend dans la rue en masse pour défendre son bout de gras. Quand il s'agit de tendre les bras, ça ferme la porte et chacun chez soi. Ça dégouline d'égoïsme et ça se gave comme des oies. Et on abreuve le populisme à coups de cerveau hors d'état. Tant de disponibilité pour Coca-Cola à la botte de Monsanto. Finalement on en est tous là. Visiblement y'a plus le choix. Ils ont gagné sur tous les fronts. Pareil que la fin du système commence par une révolution. Ça donne envie de tout foutre en l'air. Couper des têtes d'être sanguinaire. Ça fout les nerfs. Voir qu'un pour cent possède plus de la moitié de la terre. J'suis en colère quand je me rends compte que j'suis pleinement pris pour un con. Quand c'est moi qui culpabilise sur mon moment de consommation. J'n'ai pas la prétention d'être mieux que quiconque dans l'assemblée. C'est juste que je ne me sens pas bien quand j'pense au monde qu'on va laisser. Y'a comme une envie de vomir dans les hautes sphères politiques. Clic, clic, boom, bang, on vient shooter leur shérif, hein.
Tout ce qu'on trouve, que ce soit des pierres, des bouteilles de verre,
on vient shooter leur shérif, hein.
Eux ils ont les matraques, ils ont tout.
Ça va toujours la fête de l'humain ou quoi?
Entre eux, moi c'est tout.
On vient shooter leur shérif, hein. Clic, 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 boom, bang. On vient shooter leur shérif, hein.
Boom, bang. On vient shooter leur shérif, hein.
Boom, 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 boom. On vient shooter leur shérif,
hein. Tu rentres dans le rang ou tu dégages?
Nous sommes toujours en direct et en public. Merci beaucoup Ali depuis la fête de l'humanité pour parler de la rentrée sociale. Et tout de suite on retourne faire un petit tour à la manif. C'était mardi 12 septembre, retrouver d'autres feignasses à l'hôpital.
Descendre à la fond dans un pas. On est là, 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 parce que le vote c'est tout l'endroit. Nous allons lutter, lutter contre cette casse. Et on t'en verra en charter pour Las Vegas. Et
Béli-Cor.
Vous travaillez à l'hôpital, vous?
Oui, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et l'hôpital public est très attaqué aujourd'hui avec les ordonnances Macron. La loi travail, c'est pas seulement le privé, c'est aussi le public. Et on l'a bien vu, Macron, il compte bien attaquer les fonctionnaires. Ceux-là même qui ont permis de triompher de la crise des banquiers, et ceux-là même qui ont permis de réagir et de prendre en charge la population lors des attentats.
Vous travaillez dans quel hôpital ?
Je suis infirmière à l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Je suis de l'hôpital Henri Mondor, mais je suis secrétaire générale de l'Union des syndicats de la CGT de l'assistance publique.
Qu'est-ce qui va changer pour vous à l'hôpital ?
Écoutez, la majorité des personnels de l'hôpital public sont avant tout des femmes. Nous avons une majorité de familles monoparentales, de femmes seules avec leurs enfants. Et c'est elles qui vont être attaquées. C'est toutes les questions du droit, les questions des minima sociaux qui sont sur la table, les questions de salaire, de retraite, qui sont déjà un problème pour l'égalité et qui vont être encore plus attaquées dans les ordonnances Macron. Alors nous, on chante que non, nous ne sommes pas des feignants, mais nous sommes des résistants auprès de nos patients. Parce que les conditions de travail que nous font les différents ministres de la Santé, avec la loi Santé, mais avec ce qui est annoncé par Macron qui compte bien attaquer les budgets, c'est 1200 postes encore en moins. Alors que nous sommes à l'os, que les urgences sont très attaquées et qu'aujourd'hui, on va vers une précarisation des emplois. Vous avez bien vu qu'ils veulent préconiser des accords statutaires à la carte ou à la gueule du client.
Ouais, mais ça, il faut bien des transformations dans le pays quand même.
Alors, nous, on n'est pas contre les réformes, mais la réforme, elle est seulement dans le sens de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on réforme l'hôpital pour suivre le rythme de la finance et pas pour suivre le rythme de la prise en charge des populations. La santé, c'est le PIB, c'est le bien de tous. C'est ce qui permet à une population d'aller travailler, parce qu'une population en bonne santé, c'est du progrès social.
Allez, allez, Macron, on n'est pas des feignants, on est des résistants. Auprès de nos patients, on en prend plein la gueule, du matin jusqu'au soir, pour un salaire de merde.
L'hôpital sous tension, géré comme une entreprise, soumis à la loi du marché, ça fait un moment que ça dure et ça ne va pas s'arranger avec les ordonnances Macron. C'est toute la fonction publique qui est attaquée, mais aussi le secteur associatif, Antoine.
Et pour en parler, oui, façon Radio Tract, on accueille Frédéric Amiel du syndicat Asso Solidaire, le syndicat des salariés du secteur associatif, membre de l'Union syndicale solidaire. On s'est vu à la manif du 12, vous étiez déguisé en fantôme pour interpeller notamment Madame Pénicaud qui n'aime pas les petits oiseaux de l'associatif, fini les QI et les KE, les contrats uniques d'insertion et les contrats d'accompagnement dans l'emploi. Vous craignez une destruction, même une déstructuration du mouvement associatif, c'est ça, ou du secteur associatif ?
Oui, tout à fait. Mais cette image des fantômes qu'on a choisie, c'est pour montrer cette disparition d'emplois. C'est-à-dire qu'au milieu de l'été, on a balayé d'un revers de la main plus de 200 000 emplois dans le secteur associatif et dans les services publics. Donc ça, c'est d'une violence inouïe. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais imaginé que ça pouvait arriver. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces emplois, c'est non seulement des gens qui perdent leur travail, mais des gens qui travaillent dans des services auprès des populations, des services culturels, sanitaires, des services de proximité. Donc aujourd'hui, on s'attaque à tout ce secteur associatif, c'est-à-dire à tout ce qui fait du lien dans notre société, tout ce qui fait de la solidarité, tout ce qui nous permet de résister au libéralisme et à la concurrence de tous contre tous. C'est ça qui est attaqué derrière les contrats aidés, parce que c'est ça qui alimente aujourd'hui les contrats aidés.
Et en plus, le secteur associatif est un secteur militant en général, quoi. Du coup, ça détruit aussi tous ces foyers de militance qui existent dans le pays, c'est ça ?
Bien sûr, derrière la suppression des contrats aidés, il y a l'idée qu'on ne doit pas alimenter aujourd'hui des projets alternatifs, et ce qui ne sont pas forcément des projets gauchistes, hyper révolutionnaires, etc. C'est les gens qui font des festivals culturels dans leur village, dans leur société, c'est des gens qui construisent de l'ensemble, de la solidarité à leur échelle, qu'elle soit nationale ou locale. Et ces personnes-là déjà bénéficiaient d'un type de contrat qui était hautement à remettre en question, puisqu'effectivement les contrats aidés, ils sont porteurs de précarité. Mais au lieu d'améliorer la qualité de ces contrats, on se contente de les faire disparaître. Et ça, c'est très grave. Demain, on va remplacer ça par des services civiques. On va payer les gens 450 euros. Et tout ça, ça permet de faire de la place à ce qui va s'engouffrer à la place, c'est-à-dire du marché, de la mise en concurrence, des appels d'offres et des entreprises privées.
Merci Frédéric Amiel. Alors dans la famille Convergence des luttes, on va aller devant le rectorat de Créteil, c'était mercredi, donc le lendemain de la manif. Il y avait un rassemblement d'enseignants et de syndicalistes de Seine-Saint-Denis qui s'inquiètent de la rentrée des classes et de l'égalité des chances dans cette rentrée sociale. Et on va voir comment la question est liée aussi avec celle des emplois aidés.
Et on veut quoi ?
Des moyens !
Pour qui ?
Pour les lycées !
Je ne sais pas si si tout le monde a compris, mais apparemment, on est déjà un petit peu fâché aujourd'hui puisque le rectorat refuse d'élargir la délégation.
Le 93 en colère, on va pas se laisser faire. Le 93 en colère, on va pas se laisser faire.
Alors moi, je suis militante à Sud Éducation, mais là, on est plusieurs collègues de différents syndicats et non syndiqués à être présents de l'établissement. On est un lycée de 22 000 m2, lycée Jean Rostand à Villepinte, quasiment 1300 élèves et deux surveillants lundi. Ça veut dire un surveillant à l'entrée, à la grille, éventuellement le midi un surveillant à la restauration et personne pour surveiller l'établissement, personne pour assurer le suivi pédagogique des élèves, prévenir les parents que leurs enfants sont absents. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses que du coup l'établissement est en incapacité de faire. Puis après, il y a toutes les missions pédagogiques qui ne peuvent pas non plus être assurées. Donc nous, on a ce gros problème-là, très important à la vie scolaire et qui empire d'année en année. Et on est sans cesse comme ça dans la gestion de l'urgence. C'est pour ça qu'on est en grève depuis deux jours de façon très massive. Il y a 3 CPE sur 4 qui sont en grève. Il y a toute l'équipe d'assistants d'éducation qui est en grève aujourd'hui. Et puis ce matin, on était à la région, parce que voilà, depuis que Valérie Pécresse est à la tête de la région, elle a supprimé 600 contrats uniques d'insertion, 600 contrats aidés il y a 2 ans. On donne moins d'argent pour un élève du 93 que pour un élève de Paris intramuros, parce que le salaire des enseignants est plus élevé à Paris parce qu'ils sont plus âgés. Mais c'est aussi plein d'autres choses. Il faut voir que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on a un médecin pour 12 000 élèves, alors que la moyenne au niveau national, c'est 1 pour 10 000. 1 pour 10 000 au niveau national, c'est pas assez, mais 1 pour 12 000 en Seine-Saint-Denis, alors qu'on est un des départements les plus pauvres de Seine-Saint-Denis, ben c'est encore plus la honte, quoi. Et le nombre de médecins dans l'Académie de Créteil, il a été divisé par 2 ces 10 dernières années. Et l'État n'assure même plus ses devoirs légaux, c'est-à-dire que la visite médicale en 6e, il y a plein d'élèves qui n'y ont pas accès, alors que c'est des moments où on peut repérer si un élève a des problèmes de vue, etc. Et les populations du 93, elles ont un accès à la médecine et aux soins qui est moindre. Toutes les questions de signalement, des problèmes à la maison, voire des maladies plus graves, etc., on s'en rend compte trop tard. On s'en rend compte trop tard et c'est tous ces personnels-là aussi dont on a terriblement besoin, infirmières, médecins, assistantes sociales et dont on manque.
Comme un bruit qui court, donc en direct de la fête de l'UMA, on continue un petit tour de piste des mobilisations en cette rentrée sociale et un nouveau tract radiophonique avec David Pigeon, alors du lycée donc Guillaume Passant de Colombes. On s'était croisé déjà l'année dernière sur le mouvement Touche pas ma ZEP et vous étiez à la manif mercredi dernier, mardi dernier. On s'est vu aussi à la Bourse du Travail parce que ça ferraille en ce moment dans toutes les organisations syndicales pour préparer la riposte. Alors un petit point là sur la mobilisation dans le secteur de l'éducation.
Pour nous, ça a été une rentrée bien plus chaude que ce qu'on pouvait prévoir à la base. Ça a démarré 2 jours avant la pré-rentrée des profs avec 150 personnes au rectorat de Créteil avec Sugère à Saint-Denis qui a démarré dès le 30 août. Ça a continué dès le lundi de la rentrée au Bourget 93, grève reconductible d'une semaine. Et le mercredi, ça a démarré à Argenteuil, ça a démarré au Blanc-Ménil, ça a démarré à Aulnay. Et le lendemain, Blanc-Ménil, Aulnay, ils ont enchaîné. Et puis ça a enchaîné à Sarcelles, ça a enchaîné à Stain, ça a enchaîné aussi à Paris pour la première fois dans les quartiers populaires de l'Est parisien avec nos collègues de la cité scolaire Voltaire qui ont lancé un mouvement « Ma cité scolaire va craquer ». Je pense qu'il représente bien ce qu'on ressent dans tous nos lycées, nos collèges en éducation prioritaire. Et ça a enchaîné aussi en collège à Garges-lès-Gonesse, à Colombes, en lycée à Marseille, dans des collèges REP de Grenoble. Une grosse mobilisation dans les collèges et les lycées, dans les quartiers populaires parce que tout simplement les problèmes ils sont un petit peu partout les mêmes. Des effectifs qui explosent. On a le ministre Blanquer qui dit partout qu'il y a des CPA 12. Les CPA 12, c'est pratiquement nulle part, seulement en REP+, et sans aucun moyen supplémentaire, sans même locaux supplémentaires, et en faisant sauter le dispositif plus de mètres que de classe. D'ailleurs, à Vaux-en-Velin, c'est aussi des quartiers populaires dans le coin de Lyon. Ils ont fait grève alors qu'ils étaient en CPA 12, parce que c'est n'importe quoi la mise en place de ça. Donc, c'est CPA 12 pratiquement nulle part, et classe à 35, 36 en terminale pratiquement partout. C'est ça la réalité de la rentrée scolaire de Blanquer, et les collègues, ils ont décidé de ne pas faire la rentrée dans toute une série de bahuts, et c'est vraiment une rentrée explosive.
Merci David Pigeon. Alors, on voulait justement en profiter pour faire un petit Un petit clin d'œil à nos amis du lycée Sugère qui sont là, il y a Mehdi qui est là, il y a des étudiants du lycée Sugère, et notamment faire apporter tout notre soutien à Pascal Stoller, donc qui dirige le BTS audiovisuel, avec qui on a fait tout un travail sur de nombreuses années avec Radio France, un partenariat pédagogique avec Radio France, du travail avec l'émission là-bas si j'y suis, du travail qu'on continue avec les enseignants là-bas, et on aimerait bien que ce travail puisse continuer et que Pascal Stoller puisse être retourné au BTS audiovisuel. Pigeon, dis-moi.
Ouais. Alors, juste un rendez-vous. On aura rendez-vous jeudi prochain à 11h devant le ministère avec Sugère qui sera là avec tous les établissements de la région parisienne du 75 au 93 en passant par le 95 pour l'éducation prioritaire. Allez, rendez-vous à 11h au ministère.
Pas de Sugère sans Stolaire.
Pas de Sugère sans Stolaire.
Vive.
Donc, on a vu éducation, santé, emploi aidé. Et si je comprends bien, l'un de nous, pour faire un peu un tour de ce tour de table, les politiques de l'extrême centre qui sont à l'œuvre, dont ce sont des illustrations, vous posez à la question à la fin de votre bouquin paru chez Lux Éditeur, la question toute simple, qu'est-ce que je peux faire moi, qu'est-ce que j'y peux, et à la quoi vous répondez, radicalisez-vous. Ça y ressemble pour l'instant?
Ben, on est dans un contexte révolutionnaire, même si on peut avoir l'impression...
Ça, c'est le titre du livre de Macron, ça, non, révolution?
Ben, c'est le détournement. Mais en fait, on peut avoir l'impression, justement, en voyant le type de détournement qui sont faits de ce mot par celui que vous avez mentionné, ou par les résultats des urnes aux États-Unis, ou ce qui adviendra en Allemagne bientôt, que la situation est décourageante, qu'on n'avancera jamais, et ainsi de suite. Mais quand on lit Rosa Luxembourg, on se rend compte, on se rappelle qu'un contexte révolutionnaire au seuil duquel nous sommes est un contexte dans lequel on comprend d'une manière massive, et on y arrive, qu'il y a plus de risque à s'en tenir au statu quo qu'à s'essayer à autre chose radicalement. Il n'y a plus de risque. Et on en viendra au point où, du point de vue de l'écologie, du point de vue de la justice sociale, du point de vue de la démocratie et de la culture, on comprendra que si on continue passivement comme ça dans la voie de la médiocrité, c'est-à-dire du conformisme aux standards voulus par les grands pouvoirs, on courra à notre perte, exactement. Et sachons que l'histoire avance parfois par des grands bonds. Et nous sommes, je crois, dans un moment où nous prenons collectivement notre élan.
Merci beaucoup Alain Deneau. Politique de l'extrême sens, c'est aux éditions Lux. Et c'est des propos qui, j'ai l'impression, ont plu à notre invité qui va chanter maintenant. Je la voyais acquiescer, Mélis Mel, qui est en direct, en public et en musique, dans Comme un bruit qui court, depuis la fête de l'humanité.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras, faut pas venir chialer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sang élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes. Aux armes, aux armes, etc. Aux armes, aux armes, etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi, nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, aux armes, etc. Aux armes, aux armes, etc.
Hey!
opprime et la loi triche. L'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois. Liberté lie, bête et chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur. Amour sacré de ta patrie. Et ta fraternité se meurt. Et ta fraternité se meurt. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous vos rois, mon peuple articulé, des pantins aux longs bras. Faut pas venir chialer aux armes, aux armes, faites entrer l'accusé.
Merci Mélis Mel d'être venue sur le plateau en direct sur Comme un bruit qui court dans Comme un bruit qui court sur France Inter, en direct de la fête des Lumas. Merci à Mathieu aussi qui l'a accompagné au piano. Merci à tous les deux, revenez quand vous voulez. On va partir au Maghreb maintenant avec Charlotte dans le Rif justement.
Oui, on va accueillir tout de suite Khadija Riadi. Bonjour. Vous êtes membre de la coordination maghrébine des organisations de défense des droits de l'homme. Et ancienne présidente de l'Association marocaine des droits de l'homme. Voilà, à vos côtés, Rachid Oufkir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au comité de soutien du mouvement RIFAIN en Ile-de-France. Oui. Et on va revenir avec vous tous les deux sur ce mouvement social et citoyen sans précédent qui a débuté au mois d'octobre, donc un an presque déjà dans le RIF, donc le nord du Maroc, suite à la mort tragique de Mohsin Fikri, un vendeur de poissons qui a été broyé dans une benne à ordures. Sa mort a été un véritable déclenchement, l'élément déclencheur de la révolte du RIF, et elle illustre un sentiment de mépris qu'éprouvent les habitants du RIF, donc la région nord du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce sentiment de mépris? Quelles sont les racines vraiment de sentiment, Rachid?
Alors, bonjour. Tout d'abord, en fait, je remercie France Inter de m'avoir accueilli pour parler, pour effectivement évoquer ce sujet qui est très important et qui est mal traité, enfin sous-traité en France, dans le sens où on en parle peu. Donc, je suis très honoré d'être ici pour parler de ce moment-là, qui est un mouvement, mouvement populaire, mouvement citoyen, qui est très enraciné dans l'histoire. Et donc, ça ne date pas de 2016, mais ça date de 1958-59. Avec une révolte pareille qui s'est passée dans le RIF, à Al-Hutima, où il y avait des centaines de morts qui ont été assassinés, des RIFains, qui ont été assassinés par le roi Hassan II, avec Oufkir, avec un général Oufkir qui n'a rien à voir avec avec lui. Il y a un sentiment de mépris, il y a un sentiment de marginalisation économique, politique, sociale, marginalisation institutionnelle. Et ça a donné des moments, un moment social que nous connaissons aujourd'hui, c'est le moment de Hirak, qui veut dire la mouvance rifaine,
ça a donné avant le moment du février, et ça a donné aussi des moments protestataires pour vivre, pour la vie, pour un meilleur, un avenir meilleur, qui est par exemple 1984, etc. Ce sont parmi des mouvements protestataires dans la région du Rif.
Aujourd'hui, les revendications, c'est principalement des écoles, des infrastructures, des hôpitaux et une reconnaissance.
Alicia.
Oui, j'ajouterais d'abord merci aussi pour l'accueil. J'ajouterais aussi que le Rif est une région amazigh. Et la question amazigh a toujours été marginalisée au Maroc. Oui, c'est une langue officielle maintenant reconnue depuis 2011 par la Constitution, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de loi qui met en place l'application de cette officialisation de la langue amazigh. Il y a encore des prénoms amazigh qui sont interdits au Maroc, il y a encore le drapeau amazigh qui est dénigré, et il y a donc une marginalisation de la région. Donc c'est une culture qui est complètement marginalisée. Ce n'est pas la seule région amazigh, mais le Rif a toujours constitué la région qui milite beaucoup plus pour les questions d'Amazigh pour la reconnaissance de cette langue. Il y a aussi toutes les revendications qui sont maintenant actuelles. C'est bien sûr des choses très banales. Ça peut même, on a honte de dire qu'on milite encore pour des hôpitaux, pour des écoles. C'est des droits élémentaires fondamentaux pour lesquels le Maroc s'est engagé au niveau international en ratifiant les conventions internationales des droits de l'homme, en ratifiant le pacte pour les droits civils et politiques, etc. Donc c'est des engagements de l'État qu'il ne reconnaît pas, qu'il n'applique pas. Donc c'est des choses élémentaires pour lesquelles les gens sont sortis dans la rue. Il faut rappeler aussi que dans le Rif, Al-Husseima, c'est la ville qui a connu plus de victimes de la torture, de la répression en 2011. Al-Husseima, il y a 5 jeunes qui ont été brûlés dans une agence de la banque bancaire. Et pour le moment, il y a encore une impunité totale des responsables de ce crime-là. En plus des crimes de 1984 comme Adi Rachid, il y a une fosse commune qui a été découverte à Nador. Jusqu'à maintenant, il n'y a encore aucune vérité n'a été décelée sur ce qui s'est passé. Il y a encore les victimes de la dictature de Hassan II qui ne sont pas reconnues. Donc, il y a un ensemble d'engagements, un ensemble de discours, de plans d'action, de recommandations qui se font, mais dans la réalité, dans la vérité, ça ne s'applique pas, ça reste juste pour donner une belle image du Maroc à l'extérieur, en Europe, etc. Donc ça sert beaucoup plus à ça que de mettre en place des engagements. Donc les gens sont sortis en fait pour la dignité, parce que tout ça, l'école, les routes, l'hôpital, c'est la dignité en fait.
Et c'est un mouvement qui est donc beaucoup réprimé aussi, malgré ce que pouvait penser notre président Macron.
Ah oui, il a fallu attendre.
Merci beaucoup aussi à Rosa Moussaoui. Vous pouvez retrouver des reportages dans l'Humanité. Si vous passez à la fête de l'humain, allez faire un tour au stand du mouvement du RIF au Village du Monde, conférences, concerts et expositions. Merci.
C'est à vous.
C'était comme un bruit qui court, toutes les informations sont sur le site de France Inter, franceinter.fr. Laissez-nous vos messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court.